tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Ce qui nous intéresse chez Open Classroom, c'est pas tant que les gens aient des diplômes, c'est que les gens aient un impact positif dans leur vie. Et cet impact, on le mesure par l'employabilité. C'est pour ça qu'à l'entrée de la boîte, on a mis un compteur qui montre le nombre de jobs qu'on a aidé à créer et qui est mis à jour en temps réel. Là, je vois plus d'ici, 7200, un truc comme ça. Il faut imaginer 7200 vies changées par des gens qui ont trouvé un travail. Soit qui ont changé de poste, soit qui étaient beaucoup maintenant, qui étaient au chômage et qui ont trouvé un travail grâce à la formation Open Classrooms.
En amont de cet épisode, à nouveau, un grand merci à vous toutes et tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Réel. Ce podcast existe grâce à vous, vous en êtes les co-créateurs, donc merci du fond du cœur pour vos messages, votre soutien et votre si généreuse présence. Merci également à Vincent Rochette qui s'occupe du montage des épisodes et sans qui je ne pourrais pas faire tout ce que je fais en ce moment. N'oubliez pas de partager l'épisode, de mettre des commentaires et des étoiles sur iTunes, mais aussi de vous abonner sur la plateforme de votre choix parce que le podcast est désormais disponible partout, mais également au compte Instagram Réel Podcast. Maintenant, je passe à l'invité de la semaine. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». J'ai également cette conviction et l'homme que vous allez entendre souhaite rendre accessible le savoir au plus grand nombre. Mais pas seulement, il veut connecter ce savoir à ce qu'on appelle l'employabilité, le fait de trouver un travail sur le marché de l'emploi. Alors je pourrais vous dire que ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait d'être parvenu à lever 60 millions de dollars, un record mondial cette année dans le secteur de la EdTech, mais en fait ce qui m'a le plus épaté, c'est sa simplicité, son honnêteté, son intelligence bien sûr, et surtout le fait que son entreprise soit littéralement un projet de vie qu'il a démarré à 13 ans. Avec lui, nous avons parlé de ce projet de vie en l'occurrence, de sa vision, de sa mission, de l'organisation actuelle de cette entreprise en totale pleine croissance, de ses futurs challenges, de ce qu'il pense des marchés de l'emploi et de la formation en France, mais aussi de ce qu'il ressent depuis cet investissement absolument hors norme. Je vous conseille d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, car son coup de gueule va certainement éveiller en vous quelque chose. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Mathieu Nebra, le cofondateur d'Open Classrooms. Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Merci.
Je suis vraiment ravie et honorée. Parce que tu fais partie, on va dire aujourd'hui, des licornes, enfin ton entreprise fait partie des licornes françaises. Et je vais te demander dans un premier temps de te présenter si ça ne te dérange pas autant professionnellement que personnellement.
Ok, alors c'est facile aussi professionnellement que personnellement, c'est un peu ma vie, donc ouais. Tout est lié en fait, ouais. Hein, c'est pas deux vies différentes. Mm-hmm. Donc je m'appelle Mathieu Nebra, j'ai 34 ans, mm-hmm. J'ai plusieurs passions dans la vie que j'ai la chance de découvrir très tôt. J'ai une passion pour l'écriture, une passion pour la pédagogie, une passion pour la création informatique. Mmh. Et il se trouve que, un peu par hasard, à l'âge de 13 ans, j'avais un ordinateur à la maison et je voulais apprendre à créer des choses sur l'ordinateur. Mmh. Créer des sites web, justement, mmh. Savoir comment ça marche. C'était le début d'Internet en France, 99. Ouais. Et je suis parti en fait en librairie à l'époque pour chercher un bouquin pour apprendre à programmer parce qu'à l'époque j'allais pas apprendre sur Internet. Mm-hmm. Je rappelle que 99 on avait une heure d'Internet par mois, ça coûtait cher et ça coupait le téléphone à la maison en plus. Donc les parents étaient pas contents. Donc faut imaginer voilà, c'est tout est parti un petit peu à l'âge de 13 ans où je voulais apprendre à créer un site web. Mm-hmm. Je suis allé en librairie et là j'ai été déçu parce que tous les livres étaient des livres pour des professionnels. Et moi qui avais 13 ans, je me sentais un peu rejeté, mis sur le côté en fait. Non, c'est pas pour toi, c'est pour les adultes. Ouais. Il y avait marqué en quatrième de couverture, souvent il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience. Mmh. Et les trucs pour débutants, bah, il n'y en avait pas vraiment en fait. Et donc, j'ai quand même pris un de ces bouquins, j'ai quand même appris avec un de ces bouquins pour les pros, mmh. Tant bien que mal. Et plein de choses qui m'ont frustré en fait. On a tous eu des bons profs, on a eu aussi des plus mauvais qui rendaient les choses un peu plus difficiles, mmh. que ce qu'elles devraient être. Pour montrer que, je sais pas, peut-être qu'il leur a fallu du chemin pour en arriver là. Donc, mmh. Nous aussi, il faut qu'on galère un peu, tu vois. Mmh. Cet auteur, il faisait un peu ça aussi. Et donc, ça m'a un peu frustré. Je me suis mis à réécrire le bouquin de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Je me suis mis à faire de la pédagogie en ligne. Je me suis mis à créer un site web pour expliquer aux autres comment faire des sites web, mais de la façon dont j'aurais aimé apprendre.
Tu parles du site du zéro, c'est ça?
C'est ça, et j'ai appelé ce site le site du zéro. Mmh. Et ça, c'était, vous imaginez, c'était en 99, j'étais au collège, en quatrième, j'avais 13 ans, et je voulais, j'avais juste ce projet à côté, parce que ça m'éclatait de dire, tiens, pour le challenge intellectuel, en fait, est-ce qu'il est possible de faire ce bouquin, mais mieux? Une façon qui m'aurait plu à mon moi d'il y a 3-4 mois. Mmh. C'est là où je suis devenu un peu schizo et je me suis dit qu'est-ce que j'aurais voulu entendre il y a 3 mois en fait.
Ouais.
Et bah ça a bien marché. J'en ai parlé à des amis et le bouche à oreille au fil des années. C'était un projet perso. Je faisais en mode soirée week-end. Je continue mes études, le lycée, post-bac, etc. Et c'est devenu tellement connu. Il y a eu tellement de succès que j'en ai fait une entreprise avec un associé, Pierre. Mmh. On a créé l'entreprise. Donc le site, je l'ai créé en 99.
Ouais.
Pierre m'a rejoint en tant que bénévole sur le site en 2002. À peu près. Mmh. Et en 2007, on a créé la boîte.
Mmh.
Et là, on est en 2019. Et on vient de fêter le mois dernier les 20 ans d'existence du projet. Voilà.
Est-ce que tu peux juste nous reparler un peu de ton parcours, même si c'est. Même si j'ai bien compris que c'était un projet de vie, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette révélation où tu t'es dit ma vocation, c'est de rendre accessible. Parce que. On va bien entendu parler de la mission et de la vision d'Open Classrooms. Mais pourquoi, toi, tu t'es dit, je vais révolutionner cette chose-là?
Je me suis jamais dit, je vais révolutionner ça. C'est un peu au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais un truc un peu gros dans les mains et que la révolution était déjà en marche, mais elle était silencieuse. Elle est arrivée au fil du temps avec des efforts et avec beaucoup d'abnégation, de persistance à amener ce que c'est aujourd'hui. Donc non, il n'y a pas un réveil un matin où je me dis je vais révolutionner l'éducation. Ça m'est jamais arrivé comme ça.
Mmh.
Par contre, je me suis bien dit ah là là, c'est vraiment compliqué ce truc. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Donc c'est plus des petites actions, mais qui ont été travaillées au long cours parce que j'ai jamais lâché le bébé et qui ont créé un impact aujourd'hui qui est assez énorme. Je m'en rends pas toujours compte, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui grâce à ce site ont appris tout ou partie de leur futur métier.
Bien sûr.
Et c'est assez impressionnant.
Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu d'Open Classrooms? Tu vois, si tu peux nous faire un peu sa carte d'identité pour que les gens comprennent.
Oui, bien sûr. Open Classrooms, c'est une entreprise à mission. On appelle ça une entreprise à mission, dont la mission est de rendre l'éducation accessible.
Mmh.
C'est en fait le successeur du site que j'ai créé à l'époque en 99, le site du zéro.
Mmh.
Pour faire simple, le site du zéro, c'est la version amateur perso du projet, et quand il est devenu une entreprise au fur et à mesure il a été renommé Open Classrooms, mais c'est vraiment le même projet, hein. Il faut imaginer une continuité, et ce qu'on propose ce sont une école en fait en ligne nouvelle génération. On propose des formations diplômantes, les mêmes diplômes qu'on peut avoir dans une école physique, on peut les avoir en ligne aujourd'hui avec des méthodes de formation qui sont assez différentes. On n'a rien inventé de révolutionnaire en tant que tel, mais l'ensemble, je dirais, en lui-même est une petite révolution. Les gens peuvent se former à tout moment de la vie, peuvent démarrer la formation quand ils veulent, peuvent aller plus vite ou plus lentement, contrairement à une école classique où si tu veux un bachelor, il faut 3 ans.
Voilà.
Tu sais que t'es parti pour 3 ans d'études. Sur Open Classrooms, tu prends le temps que t'as besoin de prendre et souvent les gens le font plus vite.
Peu importe.
Et à la fin, et j'insiste là-dessus parce que les gens ont besoin des fois que je leur redise, c'est effectivement un vrai diplôme reconnu par l'État. On a toutes les accréditations en France et on commence à les obtenir au Royaume-Uni, aux États-Unis parce que la législation évolue favorablement vers l'éducation en ligne. On commence à se dire, ah, c'est peut-être un vrai truc, ce truc. Donc voilà, on propose des formations en ligne, historiquement sur l'informatique, et on a ouvert sur maintenant le marketing, le design, la vente, les RH, donc tous les métiers qui sont impactés par la transformation digitale. On fait des formations sur des métiers d'avenir, mais qui se passent entièrement en ligne, que vous pouvez faire de chez vous et sur lesquels vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par un mentor. Vous avez des cours en ligne, vous avez des projets à faire. C'est très concret. À la fin, quand vous avez fini votre formation, vous avez un portfolio de projets complet et en plus le diplôme qui va avec, et on vous aide à trouver un emploi. Ce qui nous intéresse chez Open Classroom, c'est pas tant que les gens aient des diplômes, c'est que les gens aient un impact positif dans leur vie. Et cet impact, on le mesure par l'employabilité. C'est pour ça qu'à l'entrée de la boîte, on a mis un compteur qui montre le nombre de jobs qu'on a aidé à créer et qui est mis à jour en temps réel. Là, je vois plus d'ici, on a 7200, un truc comme ça. Il faut imaginer 7200 vies changées par des gens qui ont trouvé un travail. Soit qui ont changé de poste, soit qui étaient beaucoup, beaucoup maintenant, qui étaient au chômage et qui ont trouvé un travail grâce à la formation Open Classrooms.
Et tu rembourses les cours si les gens...
C'est ça, s'ils ne trouvent pas de travail.
En 6 mois, c'est ça ?
On laisse faire des délais de 6 mois et en général, quand ils n'y arrivent pas, on les accompagne gratuitement avec du coaching.
D'accord.
Pour les aider dans leur recherche d'emploi. Des fois, c'est que les gens ont les compétences métiers, mais n'ont pas les compétences pour chercher une entreprise. Ils savent pas se présenter, bien ils sûr. Savent pas contacter les entreprises. Ouais. Donc, on leur donne de la méthode avec un coach. Et c'est un truc qu'on offre à tous nos étudiants diplômés qui en ont besoin. Et en général, ça marche. Franchement, ça marche super bien.
Aujourd'hui, je crois que vous avez, arrête-moi si je me trompe, mais 3 millions de vues par mois, c'est ça ?
3 millions de visiteurs, 3 millions de visiteurs par mois, ouais.
180 employés, 181, je crois. Mmh, mmh. Et 1000 cours en ligne, quasiment, non ?
Ouais, ça dépend comment tu comptes, mais c'est l'ordre d'un petit millier de cours, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est aussi surtout le nombre de formations, parce que les cours, c'est un support de la formation.
C'est ça.
On propose une cinquantaine de formations.
D'accord.
Une formation chez nous, c'est ce qu'on appelle un parcours, et ça amène toujours un emploi. Donc le nom de la formation, c'est le nom du métier. Tu as une formation de community manager et à la fin tu fais un métier de community manager. Okay. Tu as une formation de développeur back-end. À la fin tu fais le métier de développeur back-end. C'est la particularité, c'est que là où les formations classiques sont un peu plus nébuleuses, plus générales, nous on est volontairement très relié au marché du travail. Mmh. Donc quand tu fais une formation, tu sais vers quel métier tu vas.
Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu plus du modèle économique de la structure ?
Ouais, non, c'est intéressant parce que c'est pas si commun. Il y a des choses qu'on fait payer, des choses qu'on fait pas payer. Ouais. Je vais commencer par ce qu'on ne fait pas payer. Depuis le début, on ne fait pas payer les cours. Depuis 1999 que j'ai lancé le premier cours, les cours ont toujours été gratuits.
Okay.
100% des cours, les milliers de cours dont on parle, c'est des cours gratuits. Non seulement gratuits, mais en plus sous licence libre. Creative Commons, donc les gens peuvent les réutiliser, y compris dans un usage commercial. Et c'est aussi pour ça que des fois, les profs les réutilisent en partie dans leurs cours, dans des écoles traditionnelles. Mmh. Et ça nous va bien, en fait. Ça nous fait de la pub, puis ça sert l'écosystème. On est content parce qu'on ne cherche pas à faire de l'argent sur la vente de contenu. Mmh. On cherche parce qu'on pense que la vente de contenu, ça n'a pas tant de valeur ajoutée que ça, parce que c'est réplicable à l'infini maintenant. C'est comme la musique, en fait. Il vaut mieux vendre le service qui n'est pas réplicable. Et là, le service, c'est l'accompagnement par un mentor. Et la validation des compétences. Mmh. La preuve, en fait, que les gens ont acquis des compétences, qui leur permettent d'avoir un diplôme. Donc, tout le monde peut aller sur Open Classrooms. Là, vous pouvez aller sur openclassrooms.com demain et regarder des cours. Vous allez, tous ces cours-là, tous sont gratuits. Tous. Mmh. Et ceux qui le souhaitent, qui veulent vraiment aller plus loin et obtenir le diplôme pour avoir le métier, eux s'inscrivent à des parcours. Ça, c'est payant.
D'accord.
Ça, c'est payant. Et quand tu t'inscris à un parcours, ça va coûter, alors je donne un ordre de fourchette, entre 300 et 500 euros par mois pendant en moyenne 6 à 12 mois.
Okay.
Ça dépend des formations.
Okay.
Donc c'est quelques milliers d'euros.
Ouais.
Pour être accompagné par un mentor, donc pour être mis en relation avec un professionnel du secteur. Si tu fais une formation de community manager, tu auras un community manager en privé toutes les semaines par visioconférence qui fait le point avec toi. Tu auras accès à des projets que tu dois faire et tu auras accès à la validation de ces projets par les mentors.
D'accord.
Qui te permet, à la fin, si tu as validé tous les projets, d'avoir le diplôme. Diplôme qui est aussi checké par un jury à la fin. Donc, il y a beaucoup d'étapes de vérification, en fait. Hein. Et voilà ce que tu payes, en fait. Tu payes l'accompagnement et la validation des compétences, mais pas les cours.
Okay.
Les cours, le mentor, il te dirige vers ces cours. Il te dit, dans ton cas, toi, tu as besoin de faire ce cours-là. Dans ton cas, toi, par contre, tu n'as même pas besoin de faire le cours. Fais le projet directement parce que tu as déjà les compétences. C'est comme ça qu'on personnalise l'apprentissage et la vitesse d'apprentissage en fonction des individus. Et donc, deux personnes vont avoir une expérience parfois complètement différente en fonction de leur historique.
Ta passion, c'est la pédagogie ou en tout cas la transmission au sens large du terme, si on peut dire, non ?
Je disais, j'ai trois passions, je pense. La pédagogie,
ouais,
l'écriture
ouais.
Et l'informatique.
Mais aujourd'hui, tu ressens pas de frustration parce que forcément, vu que ton entreprise a pris une autre dimension, tu ressens pas un peu une frustration, une perte de mainmise sur l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que forcément, t'as mis en place une méthodologie, t'as mis en place des process. Est-ce que toi, aujourd'hui, là où tu es maintenant, t'as pas le sentiment de...
Je suis un mec constamment frustré, donc pour être clair, je suis frustré. Là, ouais. Là tout de suite, je suis frustré parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit de cours.
Ouais.
Et dont peut-être deux ans, j'ai toujours écrit des cours en fait. Depuis même plein d'étapes de la boîte, j'ai écrit des cours. Là, ça s'est accéléré depuis deux ans et effectivement, j'ai
bien
eu
sûr.
D'autres responsabilités
bien
qui m'ont pas beaucoup donné de temps pour ça. Ça me manque. J'aimerais y retourner. Je compte bien le faire. Je trouverai le moyen.
D'accord.
Parce que même des années après, quand je me mets à écrire un cours, je trouve autant de plaisir qu'en 99 au premier jour. C'est incroyable. Ça me plaît quoi. Ça me plaît. Je sens que j'ai de l'impact, que ça va être utile. Les gens m'en parlent. Donc j'aime avoir de l'impact.
Bien sûr.
Donc oui, je suis frustré peut-être un peu de pas faire de cours, c'est vrai. Mais je suis aussi franchement assez fier de tout ce qu'on a pu mettre
bien
en place
sûr.
Parce que la mécanique de création de cours sur Open Classrooms, donc maintenant qui se passe de moi, mais c'est moi qui pilote l'ensemble. Elle est super solide. Je veux dire, on a fait beaucoup d'erreurs au fil des années sur Open Classrooms. On a essayé d'externaliser complètement, de semi-internaliser, de faire, on a tenté plein d'approches avec plein de typologies de profs différents. Et on a fini par trouver un truc qui marche bien pour nous. Et là, on maîtrise notre sujet, franchement.
Les professeurs en question qui travaillent pour vous, quand tu dis ils sont pas externalisés, c'est-à-dire ça se passe comment ?
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la production pédagogique est internalisée, mais les experts sont externes.
D'accord, ok.
C'est très différent.
D'accord.
C'est-à-dire que nous, on embauche des ingénieurs pédagogiques. C'est un métier. Hein. Il y a même des formations diplômantes pour ingénieurs pédagogiques, y compris sur Open Classrooms maintenant, ce qui nous permet d'embaucher les gens. C'est assez pratique.
Ouais, c'est une bonne idée.
On s'en prive pas. Donc, ces ingénieurs pédagogiques sont embauchés en interne. Ils sont pas spécialistes d'un métier. Par exemple, tu fais une formation de community manager. On prend pas des gens spécialistes de community management. On prend des experts de la pédagogie.
Ouais.
Qu'ensuite, on forme à nos méthodes pédagogiques en ligne. Ils savent pas tout dès le départ, mais ils apprennent en entreprise aussi.
Bien sûr.
Et moi, ce que j'ai contribué à faire, c'est donner les guidelines, le guide un peu de base, l'esprit.
D'accord.
Et ça a été au fil des années vachement bien approprié par les équipes. Et aujourd'hui, en bonne autonomie, ils arrivent à créer de façon quantitative et qualitative des cours. On fera jamais autant de cours que certaines plateformes qui misent que sur le volume. On mise beaucoup plus sur la qualité. Mais c'est assez incroyable. Et franchement, j'en suis fier de ce que les équipes ont réussi à faire. Donc, des ingénieurs pédagogiques en interne. Des équipes vidéo aussi en interne. On a des studios de tournage et des monteurs, etc. Et les experts, on les prend en fonction des cours. Mais c'est souvent des externes. Des gens du métier, mais passionnés par leur métier. Donc là, on a une méthode aussi. C'est que peu importe le niveau de reconnaissance de la personne, peu importe qu'elle ait 12 000 diplômes, nous, ce qui nous intéresse, c'est sa capacité pédagogique. On la mesure systématiquement et on teste les gens avant de les valider pour le cours. Une erreur qu'on avait fait au début, c'est de prendre des gens connus. On pensait que ça allait bien marcher. Ça marchait pas toujours. Donc voilà, on a une vraie méthode d'évaluation de la qualité pédagogique et de suivi. Et ça nous permet de créer cette belle usine de production de cours qui n'est pas la finalité, je rappelle. C'est juste un moyen d'aider les gens à faire des parcours formation diplômant.
Tu penses qu'on peut se passer, je crois qu'on t'a déjà posé la question, mais tu penses qu'on peut vraiment se passer d'une rencontre physique quand il est question d'éducation, enfin d'instruction ou de formation
physique? Ouais.
Oui, c'est-à-dire que...
Mais il y a physique et physique. Hein.
Oui, je sais que tu fais beaucoup de vidéos et que donc les gens sont beaucoup en lien avec un coach via une
vidéo. La visioconférence, ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais voilà, est-ce qu'à un moment, tu penses à avoir une dimension physique dans le réel?
Alors, on a fait des expérimentations qui sont restées quand même encore à petite échelle avec les étudiants qui peuvent se rencontrer dans des espaces de coworking dans plusieurs villes en France, pour ceux qui le souhaitent.
Okay.
Ça n'a pas été massivement investi alors qu'on leur a dit, mais tout le monde n'a pas ressenti forcément le besoin d'y aller.
D'accord.
Mais ceux qui y allaient appréciaient, c'était cool, mais ce n'était pas la finalité.
Okay.
On a formé et diplômé et aidé, je le disais, des milliers de personnes à trouver un emploi, à réussir dans leur métier, alors qu'ils n'ont jamais rencontré physiquement leur mentor. Oui, c'est possible, parce que la techno le permet et suffisamment bien. S'il n'y avait pas la visioconférence, ça serait dur. Mais là, avec ça, non, on y arrive bien. Mais c'est un tout. S'il n'y avait que la visioconférence, ça ne marcherait pas. Il faut aussi les cours, il faut aussi la méthode de validation des compétences. Donc, c'est une expertise qu'on a développée au fil des 20 années. Elle ne nous est pas arrivée comme ça sur un coup de tête. Hein. C'est vraiment une évolution lente qui nous a permis de comprendre comment ça marche.
Aujourd'hui, quel regard tu portes sur, justement, le monde de la formation au sens global ? Parce que ton entreprise répond à un besoin, ça c'est certain. C'est qu'il devait y avoir une défaillance dans le système ou il devait y avoir un problème.
Il y a des défaillances partout dans tous les systèmes, c'est pas
y
compris chez nous, mais oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, on connaît le marché, enfin on connaît. D'ailleurs, je serais très très curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus parce que tu es à la fois lié au marché de l'emploi et au marché de la formation.
C'est vrai.
Donc quel regard tu portes sur ces deux dimensions-là?
C'est une bonne question qui est assez large parce que la formation en France et dans pas mal de pays dans le monde, il y a ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. Je pense que ce qu'on connaît la formation initiale, c'est jusqu'au diplôme, genre master. Et ensuite, formation continue, c'est les quelques sessions de formation qu'on a des fois en entreprise, en parallèle. Mais on n'en a pas beaucoup en fait en général. Je pense que ce monde-là est en train d'évoluer et que les deux mondes sont en train de se rapprocher. Nous, chez nous, ils sont indistinguables. En fait, on a aussi bien des jeunes de 16-17 ans qui viennent se préparer à leur métier que des gens de 40-50 ans qui changent de métier. On avait cette prof de maths qui a 58 ans et qui en a marre. Pour mes dernières années, j'ai envie de quand même faire notre métier. Bah, elle se forme de chez elle, ça fonctionne. Donc, et ces gens-là se côtoient en ligne, d'accord, c'est vrai, sur la plateforme, mais ils se côtoient, ils se parlent. Donc en fait, on a une très très grande diversité de profils. des gens qui seraient jamais venus, qui seraient jamais rencontrés.
Bien sûr.
Et ça, c'est parce que on casse un peu la frontière entre la formation initiale et la formation continue, parce qu'il y en a besoin. Parce que je pense qu'il y a souvent pas assez de compréhension du monde de l'entreprise dans la formation initiale. Elle est pas assez intégrée. Et à l'inverse, il y a pas assez de formation dans le monde de l'entreprise. C'est une catastrophe. Pour avoir une demi-journée ou une journée par an, il faut se batailler avec avec sa direction RH et compagnie pour avoir une formation qui, honnêtement, n'est pas toujours de très très bonne qualité. Franchement, j'ai entendu des histoires horribles sur des formations comme ça. Donc c'est variable, hein, évidemment. Il y a des gens qui font très bien leur travail, mais globalement, c'est très très hétérogène. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que ça soit aussi aussi éclaté. Donc on essaie de rapprocher le meilleur des deux mondes et à pas faire de distinction entre les deux. Donc le regard que je porte, c'est que c'est en train d'évoluer vers plus d'intégration entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation, qui en a besoin en bonne partie parce que les entreprises se plaignent de pas trouver les talents. Et on a d'un côté pas mal de chômeurs qui arrivent pas à trouver d'entreprise. Et c'est le grand paradoxe de plein de pays.
Bien sûr.
C'est que tu comprends pas, en fait, ça rend fou. Des gens qui cherchent un travail et d'autres qui disent qu'ils n'arrivent pas à embaucher des gens, c'est la réconciliation entre les deux qu'on essaie d'arriver à faire. C'est un choix qu'on fait aussi, hein, parce qu'on pourrait se poser la question de l'éducation. C'est quoi le rôle de l'éducation en général? Est-ce que le rôle de l'éducation, c'est d'amener les gens dans des boîtes? Ça peut, oui, en partie, mais ça peut aussi servir à d'autres choses. Ça peut servir à former de meilleurs citoyens, à créer le monde. Non, je pense sincèrement, ça peut être plein de choses. Et je pense que la vérité se situe un petit peu à la frontière de tout ça. Nous, chez Open Classrooms, pour simplifier et pour avoir un truc mesurable qui crée de la valeur financière, parce qu'on a besoin de ça, évidemment, on a choisi de se concentrer sur le professionnalisant. Donc, aider les gens à trouver un emploi. Quand on sait qu'on fait ça, mécaniquement, on sait qu'on va générer de la valeur. On sait qu'il va y avoir de l'argent et donc ça va réinfuser dans le système, ça va réinfuser dans l'entreprise, qui va nous permettre ensuite d'aider plus de gens, faire plus d'investissements pour former plus de personnes. C'est comme ça qu'on voit un peu ce cercle vertueux.
J'ai vu que récemment, en octobre, je crois, dernier, Open Classroom a été lauréate d'un prix qui s'appelle For Diversity, si ma mémoire est bonne. Parce qu'en fait, vous avez réussi à avoir une mixité assez rare, à savoir 51% de femmes au sein de votre entreprise. Alors, c'est quoi le secret?
Je sais pas, en fait, franchement, j'ai découvert qu'on a, le jour même, je crois qu'on avait gagné ce prix. Je fais, ah, c'est trop cool. Il y en a besoin de quelqu'un pour aller le récupérer. Oh, c'est cool. Bah, je vais y aller, là. J'ai fait, ah ouais. Et donc, c'était quoi les stats? Alors, je savais que les stats étaient plutôt bonnes, mais j'avais pas les derniers trucs en tête. Et c'est un peu un jour, je découvre qu'effectivement, on a une bonne mixité. Si on prend l'ensemble des salariés, on a 51% de femmes, 49% d'hommes. Bon, enfin, en gros, 50-50. Pour des boîtes de type start-up, un peu tech, c'est vrai que c'est rare. Et d'ailleurs tout le monde autour me disait mais comment vous faites, tous les gens qui n'avaient pas eu le prix ils faisaient c'est quoi votre secret, et donc ils m'ont posé la même question, j'en sais rien, j'ai quelques éléments de réponse mais ça va pas être satisfaisant pour beaucoup de gens. La bonne réponse de fond, je pense, c'est qu'on est une entreprise à mission qui s'est concentrée sur le sens, le pourquoi. Ça amène une diversité de profils, je pense.
C'est-à-dire que la mission de l'entreprise
rendre l'éducation accessible, voilà, attire des gens des profils plus variés, et je pense aide à la mixité. Alors là, on parle de sexe, mais on pourrait parler de différents types de mixité, hein, d'âge et tout ça.
Donc, bien sûr, parce que je crois aussi que vous avez tous les âges.
Voilà. Mais si on simplifie et qu'on parle juste de sexe, de façon très binaire, on peut dire on a une bonne mixité, parce que depuis longtemps, on travaille sur cette mission, et je pense que c'est ce qui rapproche les gens et qui évite de créer des clones.
Bien sûr.
Tu vois, si tu fais des trucs très axé sur un domaine, marketing, finance, etc., tu vas plutôt avoir des clones. L'éducation, ça rapproche les gens, ça parle un peu plus à tout le monde. Donc, je pense que la vraie réponse de fond, c'est ça, mais ça a mis des années à se construire. Donc, c'est juste parce qu'on croyait dans notre mission. Et après, on a eu des trucs un peu plus tactiques où, des fois, on regardait effectivement la proportion d'hommes et de femmes et on se disait, OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi pour favoriser la diversité. Et là, c'est là où on s'est fixé l'objectif d'avoir en ligne finale, en bataille finale, genre deux hommes, deux femmes à chaque fois, pour se forcer à avoir un peu de diversité dans la décision. Et ensuite, dans les méthodes de recrutement, faire des systèmes de points un peu en aveugle, ça nous a aidé aussi à ça. Mais on pourrait être meilleur encore, je pense. Donc, c'est pas vraiment ça qui a fait toute la différence. Je pense que la vraie réponse, c'est la mission.
Alors, trois levées de fonds successives et la dernière absolument colossale puisque c'est l'équivalent de 60 millions de dollars, à savoir 50 millions d'euros à peu près. ça fait quoi?
J'ai toujours pas compris, en fait. C'est que, encore une fois, c'est pas comme si j'avais fait un objectif dans ma vie. C'est juste qu'un jour, il y a eu une traction de fou et les gens sont intéressés à nous en disant c'est vraiment super et on aimerait investir. On leur dit non et puis ils reviennent, non, et puis ensuite ils reviennent. Non, mais vraiment, on voudrait. Non, mais franchement, c'est gentil, merci.
Tu voulais pas?
C'est pas qu'on voulait pas. On avait déjà des investisseurs, donc on était déjà engagés dans le game, je dirais, de l'investissement. On savait pourquoi on le faisait.
C'est ça.
La réponse, c'est pour accélérer le temps. L'investissement, c'est pas obligatoire. Plein de startups, de nouveaux startupeurs croient qu'il faut investir et que c'est ce qui est le marqueur du succès. Pas du tout.
Merci
c'est
de
juste,
le dire.
C'est juste une capture dans le temps où des gens ont cru que ton projet pourrait aller plus loin. Donc la levée de 60 millions, c'est pas parce qu'on était là, c'est parce que les gens pensaient que à ce moment-là, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mmh. C'est une marque de confiance de quelqu'un, en fait, plus. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir des investisseurs pour faire des boîtes très très bien. Je pense, VP, vente privée, ils n'ont jamais d'investisseurs et ils pèsent des milliards. Tant mieux pour eux, quoi. Juste qu'on en parle moins. C'est un peu le jeu de la presse, en fait. C'est que la presse, elle parle que des levées de fonds. Et d'ailleurs, que sous l'angle financier. Ils savent pas toutes les petites lignes du contrat qui sont beaucoup plus importantes que les 60 millions ou quoi.
C'est intéressant, ça. Il faudrait peut-être qu'on en parle un peu.
On a un cours sur.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Point Classroom sur comment faire une levée de fonds et qui parle beaucoup de ça notamment.
C'est vrai?
Ouais. Bah, qui est vraiment utile. C'est un des premiers cours qu'on avait fait d'ailleurs en vidéo. Donc voilà, ça nous a un peu à moitié tombé sur la tête. En vrai, on était réceptifs, mais on n'était pas actifs dans la recherche. Et le succès du projet, la perception de la marque qui est bonne, vraiment bonne. Parce que c'est issu du site du zéro, qui est une espèce d'amour un peu des gens. D'affect très fort en tout cas pour la marque à jouer dans la création de ces conversations.
Ça veut dire que tu n'en parles pas, hein, tu réponds pas si tu veux pas répondre, mais ça veut dire que la valorisation de ton entreprise aujourd'hui, c'est quoi?
Non, effectivement, c'est pas un truc qu'on communique.
On peut pas du tout en parler.
Et d'ailleurs, je crois que tu as mentionné au début qu'on est une licorne. Ouais. Non, on a été mentionné comme future licorne. On est en voie de devenir une licorne, mais on n'est pas encore à ce stade-là.
Okay.
On a gagné un prix qui s'appelle Next European Unicorn Awards. Ouais. C'est bien le next qui signifie.
D'accord.
Bientôt, soon. On a encore du boulot. Entre nous, soit dit, on le fait, c'est cool. Si on le fait pas, c'est une belle vie quand même. On fait des choses bien. Hein. C'est pas. Et puis unicorn, c'est juste que ça veut dire. Et maintenant, c'est plus si exceptionnel. Mmh. Maintenant, on cherche à être des décacornes, des centicornes. Mmh. C'est quoi le délire? C'est juste des marqueurs. C'est comme la levée de fonds. C'est juste des marqueurs. Mais honnêtement, la valo, c'est pas. Ça va, ça vient. Je te dirais, en deux mois, ça peut doubler, ça peut être divisé par deux. Faut rester calme par rapport à ça. Il faut plutôt s'intéresser à l'impact qu'on a, je pense, sur la société.
T'as bien raison. Mais au quotidien, est-ce que ça a changé ta vie? Tu vois, est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire? Est-ce que tu sens un réel changement?
Oui. Les réponses à toutes ces questions, oui. Plus de pression, oui, parce qu'évidemment, on te dit, OK, on croit que tu peux être là. Et donc, en fait, tu essaies de t'amener à cette direction-là. Mais en fait, le gap, l'écart entre les deux, il est conséquent au début. Donc, tu le rapproches. Donc, c'est un peu le paradoxe de la vie. C'est que quand t'as atteint des trucs, plusieurs fois, tu peux dire, c'est bon, j'ai fait plein de choses, ça marche bien, je peux m'arrêter là, c'est cool. Mais en fait, tu mets encore un objectif plus loin. Et donc, tu es toujours en, je sais pas comment dire, c'est un peu négatif de dire ça, mais toujours en situation d'échec. En disant, enfin, en tout cas, plutôt d'échec, d'avoir un objectif plus loin. Les gens, les hommes ont besoin d'objectifs.
Bien sûr.
Pour se motiver, pour faire des choses dans la journée. Et donc, on s'est fixé un objectif qui est juste beaucoup plus loin. Il dit, on pourrait peut-être être ça. OK, on y travaille. Donc, c'est à chaque fois plus difficile. C'est comme dans un jeu vidéo, on passe au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, il est plus compliqué. Donc, c'est plus d'énergie, c'est plus de pression. Et en même temps, c'est fascinant de voir, du coup, les changements. On est passé d'une boîte rapidement de 40-50 personnes à 150, maintenant quasiment 200. C'est pas les mêmes profils, c'est pas la même organisation de boîte. Moi, je suis fasciné de voir comment ça marche. Toutes les erreurs qu'on fait, tous les trucs qu'on arrive à faire bien, tous les profils qu'on arrive à recruter qui sont pas les mêmes profils toujours qu'au début, parce que c'est des nouvelles expertises, des gens qui sont très bons dans leur domaine. J'adore rencontrer ces gens-là, j'adore les voir travailler ensemble. C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Et en même temps, j'apprends énormément et j'adore apprendre, comme tout le monde, je pense.
tu fais figure d'exception sur beaucoup de points, mais t'as effectivement monté une entreprise très jeune, statistiquement, enfin, et puis même, tu t'es mis dedans puisque c'était ton projet de vie à 13 ans. Quelles ont été les étapes les plus marquantes depuis le début, autant positivement que négativement? Si t'avais un souvenir ou deux à, tu vois, à faire ressortir de toute cette expérience, ce serait quoi?
Les moments clés?
Ouais, des moments clés où tu vois des moments où tu t'es dit.
Écoute, ça, je peux t'en citer quelques-uns. Je peux t'en citer quelques-uns. Mais allez, disons. La création de la boîte en elle-même, déjà, c'était un moment où j'étais pas sûr, mais comme on était deux, on s'est motivés. C'est l'époque, en 2007, où créer une boîte, c'était pas forcément le truc cool à la mode.
Oui,
on parlait pas de start-up, il y avait pas autant d'incubateurs que start-up à Paris. Les levées de fonds, on levait rien du tout. Enfin, c'était pas le même monde, quoi. Donc, la création de la boîte, c'était assez old school. Je crois qu'on était les derniers avant l'époque start-up, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Donc, c'était encore un peu lourd, papier, etc. Mm-hmm. Ça s'est simplifié depuis. Je me souviens de ça. Je me souviens de quelques lancements de produits avec la boîte qui ont été des grands succès. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu plusieurs vies dans cette boîte. Mmh. À une époque, on était une maison d'édition. On a créé des livres papier, dérivés des cours en ligne gratuits. On faisait payer pour la version papier imprimée des cours en ligne et on les vendait en librairie. Et on a tout fait, éditeur, diffuseur, distributeur. On a fait toute la chaîne du livre en interne parce qu'on savait pas que normalement c'était splitté en plusieurs rôles. Mmh. Donc on était un peu arrivés comme des nouveaux et on a fait plein de choses à la main. Et ça a été un énorme succès. Je me souviens du lancement du premier livre. Où à l'époque, j'avais un BlackBerry. Donc, pour ceux qui connaissent,
oui, oui.
C'était le truc de l'époque où on avait les emails directement dans le téléphone. C'était fou.
Ouais.
Et il vibrait à chaque fois que je recevais un email. Bon, ouais. Je ne fais plus ça, sinon je deviens fou. et j'étais avec mes parents dans le sud de la France, à Montpellier. Pendant que mon associé, il finalisait le lancement de la boutique où on vendait le premier bouquin. Mm-hmm. Donc, c'est l'ouverture officielle. On ne savait pas du tout si ça allait marcher. Mm-hmm. On savait que si les ventes ne décollaient pas très rapidement, on pouvait couler la boîte mm-hmm. parce qu'on avait investi dans l'impression du bouquin. Donc c'était un moment un peu de vérité et je me souviens que mon téléphone a commencé à vibrer dans la soirée, et c'est que la boutique venait d'être ouverte une fois, deux fois, trois fois et j'étais assez surpris en fait. À chaque fois c'était un email de PayPal qui me disait vous avez reçu 25 euros. C'est un peu comme avoir ouvert une boutique et voir des clients rentrer dans la boutique, si tu veux. J'étais fier, je montrais mes parents, on était en train de dîner, du coup je posais le téléphone sur la table, je regardais papa, maman, à chaque fois je gagne 25 euros, je vois ça vibre. Et ça vibrait pas mal en plus, donc ça matérialisait un peu le truc. Donc ça c'était un moment un peu marquant. Mais il y en a eu plein d'autres.
Bien sûr.
Mais
après, un moment, tu vois, difficile. Je crois que t'es marathonien ou semi-marathonien, non ?
Semi. On se calme.
Non, mais...
je fais semi-marathon. Ouais.
Quel parallèle tu fais, tu vois, à la résistance qu'il faut ? Enfin, je sais que c'est un peu bateau comme parallèle, mais en même temps, quel est le moment où tu t'es dit, là, c'est une épreuve et il faut que je la surmonte ?
Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire de la boîte.
T'as failli lâcher, vraiment.
Ouais, des moments où tu penses que ton modèle économique n'a pas marché ou que... où t'as mal recruté les personnes et du coup l'ambiance dans la boîte est pas bonne. Ça, c'est des moments très très durs. C'est souvent l'humain le plus dur en fait. Mais je dirais même, c'est pas tant l'économie elle-même ou les problématiques techniques qui sont vraiment dures. C'est gérer l'humain. On aime tous recruter des gens, on aime moins virer des gens. Les gens n'aiment pas virer carrément. Mais des fois, t'as des situations où en fait, si tu le fais pas, ça va quand même arriver, mais ça sera encore plus dur.
Bien sûr.
Il vaut mieux se faire mal un coup maintenant plutôt que d'attendre des mois avant de réagir et s'il faut de licencier quelqu'un. Et des fois, on a un peu trop attendu. Et à une époque, une partie de la boîte qui s'était retournée contre nous en fait un petit peu, et c'était un peu dur. Je me souviens de ça et ça m'a durablement affecté. Ça a été un moment très très dur. J'étais très très mal. J'étais déprimé pour être clair. Ça a été compliqué. Ça s'est pas très bien passé et tout. Rétrospectivement, ça s'est très vite retourné derrière. Mais une fois que les personnes un peu négatives étaient plus là, on a pu commencer à reconstruire en fait. Comme quoi, il faut pas forcément beaucoup de monde. Peu d'éléments négatifs peuvent contribuer durablement à une ambiance négative et donc un mood qui descend vers le bas et qui est attiré vers le bas et tu peux pas t'en sortir. En fait, quand tu retires ces éléments-là, en 2-3 semaines, ça change complètement. Le monde, tu es soulevé, tu as une sorte d'ouverture de possible, alors que sinon tu es coincé, tu es restreint, tu es refermé. Donc ça, c'est un des moments un peu difficiles, je dirais. Ouais.
Au sein de l'entreprise, vous défendez une politique du care, entre guillemets. Donc, est-ce que tu peux préciser un peu et qu'est-ce que ça signifie, tu vois, aujourd'hui pour vous ?
Le care n'est pas ce qui définit Open Classrooms tout seul. Je voudrais juste mentionner que c'est un des quatre principes qui n'ont pas été définis par mon associé et moi, mais qui ont été définis par l'équipe. C'est le résultat de workshops de travail en équipe qui ont été menés il y a quelque temps. Et c'est les employés qui ont sorti ça. Ils ont sorti au final quatre principes. We care, donc on soigne, on s'occupe des gens. Ça peut être nous en interne, ça peut être particulièrement nos étudiants, clairement. On s'intéresse à eux, on fait le extra mile pour eux. Mm-hmm. We dare, donc on ose faire des choses. On ose faire des choses que les autres n'ont pas fait avant, comme de la formation en ligne diplômante, comme offrir de l'accompagnement pour la recherche d'emploi à la fin. Ça paraît économiquement pas viable, on ose faire des trucs un peu foufou. We persist. Ça c'est très important, c'est qu'en fait quand tu oses des choses un peu folles, ça marche jamais du premier coup, et les 20 ans d'histoire de la boîte et du projet, je pense, parlent pour eux-mêmes. En fait, il a fallu persister, parce que si on avait abandonné dans les moments difficiles, on serait pas là aujourd'hui, clairement. Donc c'est beaucoup d'abnégation, et l'éducation c'est dans la durée, tu fais pas des quick wins dans l'éducation, franchement. Et enfin le dernier, we tell it as it is. On parle des choses, on parle comment on appelle en anglais là, le fantôme, l'éléphant dans la pièce, le truc dont qu'on sait qu'il est là mais dont personne n'ose parler, en fait. Ben on se force à en parler, à soulever les trucs sous le tapis, à dire mais en fait ce que tout le monde se dit là, c'est que les gens ont pas confiance du projet, en fait. Pourquoi? Ben il faut en parler. En parlant, on crève l'abcès, en fait. Ça s'appelle crever l'abcès, pour aller trouver les solutions de fond. Et ça, on le fait. C'est pas évident, c'est un des trucs les plus difficiles à faire. On fait des sessions de questions-réponses très ouvertes aussi, qui nous aide à libérer la parole là-dessus, parce que je suis convaincu que si on n'en parle pas, ça reste dans un coin de la tête pour tout le monde, et ça nous pèse, et c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant.
C'est sûr.
Voilà. Donc, bah, c'est juste pour, je rebondissais sur CARE, pour dire que c'était un des principes.
C'est très intéressant d'avoir les quatre piliers.
Mais ça vaut pour nous en interne, et ça vaut aussi et surtout pour les gens en externe, nos étudiants. Tell it as it is, c'est aussi, tu dis à l'étudiant, écoute, là, t'as pas assez bossé, en fait. C'est le pendant du care, en fait. C'est que quand tu dis care, tu dis, ah non, mais il doit jamais rien arriver de mal. Tu dois jamais dire quelque chose de méchant à quelqu'un. Sinon, tu cares pas, en fait. Tu te préoccupes pas des gens. Et si, en fait, si tu te préoccupes des gens, il faut aussi les challenger pour les faire, évoluer. Ça vaut aussi bien en interne qu'en externe avec nos étudiants. Voilà un peu comment on articule un peu ces principes.
Quelles sont les futures étapes, puisque avec tout cet argent que vous avez levé, quelles sont les futures étapes de Open Classrooms?
J'ai des visions de long terme, mais j'ai pas toutes les étapes. Comme d'habitude, je sais pas exactement par où on va passer pour y aller. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a ouvert les domaines de formation en France. Donc au départ, c'était uniquement informatique. Là, on a vraiment bien ouvert le catalogue sur d'autres domaines. Comme je disais, RH, communication, vente et compagnie. Et ça donne des bons signaux, déjà. On sent qu'on peut faire des choses intéressantes là-dessus.
Excuse-moi, je t'arrête, mais t'auras pas de limite. C'est-à-dire que tu te fixes pas de limite dans la formation. Ça peut être demain, tu peux former des professeurs de lettres ou quand même tu restes dans un domaine...
Il faut que les gens puissent trouver un emploi derrière. Il faut que ce soit un emploi en forte demande.
D'accord.
Donc la limite, elle est quand même que ce soit un secteur qui soit en tension, comme on dit. C'est la seule règle, parce qu'on veut que les gens trouvent un travail derrière. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on décide ou pas de faire une formation. Avant de créer une nouvelle formation, on regarde le marché du travail, on a des outils pour regarder un petit peu si c'est tendu ou pas. Et si c'est pas tendu, eh ben on ne fait pas la formation. J'ai un exemple que je cite régulièrement, c'est qu'à une époque, on avait beaucoup de demandes pour faire une formation de développeur de jeux vidéo. J'ai l'impression que tout le monde veut être développeur de jeux vidéo.
Et tu as décliné.
Mais qui recrute des développeurs de jeux vidéo? Pas tant que ça demande, en fait. On a regardé le secteur et en fait, ça a été plutôt limité. Et ce sont nos équipes, c'est même pas moi, c'est la personne à qui j'ai dit tu devrais regarder pour faire une formation de développeur de jeux vidéo qui m'a dit non, Mathieu, j'ai regardé. En fait, le secteur est assez bouché, en fait, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas faire cette formation-là. Et c'est tout à fait un paradoxe, parce que si on avait fait cette formation-là, on l'aurait vendue en kilotonnes, en fait. Mais comme on savait qu'il n'y avait pas de débouché, on a préféré pas la faire.
Bravo.
C'est pas évident, hein. c'est des choix de court terme versus long terme, et je veux pas faire croire qu'on est parfait là-dessus, on a fait plein d'échecs là-dessus, mais ça c'est un exemple qui matérialise assez bien le rapport à la mission et à l'impact sur la société. C'est que s'il n'y a pas d'impact, ça n'a pas de sens de le faire. On préfère, parce que sinon on envoie les gens au casse-pipe, en fait. Donc ça évite ça.
Excuse-moi, je t'ai interrompu alors que ma question initiale c'est quelles sont les futures évolutions de ton entreprise.
Donc, on a déjà ouvert les domaines en français. On a commencé à faire des formations en anglais, pas mal sur l'informatique, et on est en train de faire la même chose sur d'autres domaines que l'informatique en anglais. On a des bureaux à Londres et à New York, avec quelques personnes qui bossent là-bas, pas beaucoup, mais ça a vocation à se développer. On va avoir de l'accréditation aussi, au Royaume-Uni, aux États-Unis, donc être reconnu comme une université localement, avec des diplômes, bachelor et master américain, comme une université américaine, en fait.
Incroyable.
Ouais, c'est un vrai travail de fond. On a des gens qu'on a embauchés spécialement que pour bosser là-dessus. Hein.
Ouais.
Des responsables de l'accréditation. Donc, le but, c'est de rapprocher un peu le système. C'est que si tu veux, la formation que tu fais, elle peut aussi bien te délivrer un diplôme français qu'un diplôme américain. C'est la même école, c'est la même formation. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est que personne ne l'a jamais fait. D'où le we dare. C'est ultra compliqué, mais on a une vision, on pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Voilà, le barrière à l'entrée, elle est gigantesque. Donc on a cette histoire d'accréditation qui voilà. On a plein de choses qu'on veut faire en termes de développement de produits. On veut tenter de d'autres approches. On veut en plus du mentor, l'étudiant il est un autre étudiant plus avancé qui l'accompagne mais qui sert à un autre rôle, plus de collègues, d'accompagnants, etc. Donc on veut favoriser encore plus les collaborations entre les étudiants sur les projets. Il y a plein de choses super intéressantes à faire. Et sinon, de façon générale, on est en train de développer énormément la relation avec les entreprises. Au départ, on était très orienté B2C, avec une vision sur le fait qu'il y a un emploi derrière. Là, on a aussi maintenant des gens qui travaillent en interne, spécifiquement du côté B2B, donc entreprise. Et là, c'est des. On part aussi des besoins des entreprises, c'est-à-dire des besoins notamment de formation en interne de leurs collaborateurs pour qu'ils gagnent des nouvelles compétences. Et c'est des vrais problèmes que les entreprises ont et que les salariés ont aussi. C'est le fameux, je disais tout à l'heure, le pendant de la formation professionnelle où il y a une journée de formation par an. On pense que c'est nul. Enfin, que globalement, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et on propose quelque chose qui est beaucoup plus continu d'accompagnement. Où là aussi, tu auras un mentor et tu as une formation professionnalisante qui t'aide à évoluer dans ton métier. Ça, et on aide aussi les entreprises à faire évoluer les salariés d'un poste à un autre. Donc, ce qu'on appelle le changement de poste, c'est en fait, mobilité interne, voire aussi la mobilité externe. Je vais citer un exemple. On travaille pas mal avec Amazon, notamment. Ils savent que de plus en plus, les centres de maintenance, où ils font l'empaquetage des colis Amazon, sont de plus en plus automatisés. Donc, il y a de moins en moins besoin d'emploi. Donc, les gens qui sont là, il faut les former et les amener dans d'autres métiers d'avenir. Et donc, Amazon paye les formations de ses salariés pour qu'ils trouvent un job ailleurs. Ce qu'on appelle de l'outskilling. Donc, ils sortent de l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui se préoccupe du sort de ces personnes-là et qui les accompagne dans le truc. Ça paraît fou, mais c'est vraiment
ça
le cas.
Ça nous paraît fou en France.
Ça arrive vraiment. Ouais. J'ai le cas avec Amazon. On a d'autres
très Amazon, beaux... au niveau worldwide,
ils font ça. On bosse avec le Royaume-Uni, États-Unis. Enfin, on commence à avoir des bons trucs. D'autres entreprises avec qui on a commencé récemment. McDonald's, pour ses équipiers, qui fait ça. Donc, c'est... ils savent très bien que l'équipier McDonald's, il est pas, c'est pas un job à vie en général chez McDonald's, c'est plutôt un transit étudiant.
Vous travaillez avec Google aussi, non?
Alors, je vais y revenir.
Oui, pardon.
Mais c'est pas Google directement. Mais ouais. Et donc, c'est pareil, c'est ton employeur qui investit pour qu'il y ait des compétences, qui des fois vont t'aider dans ton entreprise, mais pour le cas de McDo, clairement, c'est pas pour l'interne, c'est plutôt pour qu'ils trouvent un job ailleurs. Parce qu'ils savent aussi que ces jobs-là vont être de plus en plus automatisés. Donc, ils prennent, sincèrement, je trouve vraiment qu'ils prennent une responsabilité sociale.
C'est
nouveau, ça fait quelques années, j'aurais pas dit ça. Et donc, ils investissent dans la formation. C'est l'entreprise qui paye la formation. Pas pour que ça bénéficie à l'entreprise directement. Enfin, il y a toujours un bénéfice qui est d'arrêter d'avoir les gens dans l'entreprise, mais de le faire bien, quoi. Le faire avec une logique, une continuité. Donc, ça, c'est chouette. Et tu mentionnais Google. En fait, c'est Google qui a cofinancé un projet. Mais c'est pas pour Google lui-même, c'est pour les employés de la gig economy, les livreurs, Deliveroo, les chauffeurs Uber. Et là, c'est Uber et Deliveroo qui payent des formations pour que ces gens-là trouvent un autre métier et plus stable économiquement à long terme.
On parle pas beaucoup de ça. Hein.
Le programme s'appelle Level Up. Alors, peut-être qu'on n'a pas fait assez de communication là-dessus.
Ouais, bah, je pense que c'est intéressant.
Mais on le fait, clairement, on le fait. Et ça a vocation à s'agrandir. On a fait avec une centaine de personnes en France et au Royaume-Uni déjà.
OK.
Qui en ont bénéficié. Voilà, je les ai rencontrés. On a fait des soirées de lancement et tout. Des vrais chauffeurs, livreurs, etc. qui me disent, voilà, je suis en train de faire le truc et c'est en train de changer ma vie. Et c'est marrant parce que, en plus, eux sont pas salariés de ces entreprises, comme on le sait. Et c'est quand même ces entreprises-là qui leur payent comme un bénéfice, comme un perc, comme on dit, une valeur ajoutée de bosser. C'est comme ça qu'ils disent, en fait, deviens un chauffeur Uber ou un employé McDo et tu auras ta formation qui sera financée. Et c'est ce qu'on fait avec ces gens-là. Et c'est des vraies histoires, c'est des vrais changements de voie et de vie, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est en train d'exploser, qu'on voyait pas il y a quelques années.
C'est impressionnant. Enfin, moi, je suis étonnée parce que j'étais pas du tout au courant. Donc, comme quoi.
On va de plus en plus communiquer dessus. Enfin, clairement, c'est un peu
avec
nouveau.
Le budget que vous avez, j'espère que vous allez faire d'accord.
Mais clairement, je trouve que, pareil, on a encore des efforts à faire pour dire qu'on existe et qu'on sait faire ces choses-là. Je reconnais qu'on est assez silencieux. On est assez taiseux, en fait.
C'est une volonté ou c'est. Pour vivre heureux, vivre caché.
C'est une personnalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Je ne vais pas hurler dans la rue, c'est trop bien ce qu'on fait, faire la danse du ventre, etc. Donc, la dimension marketing chez moi est un peu plus limitée que chez, en moyenne, des Américains, par exemple, qui sont beaucoup plus à l'aise vers la vente. Donc, C'est peut-être une personnalité des fondateurs au départ, mais sur laquelle on est en train de se soigner, parce que clairement, c'est bien d'avoir le meilleur produit du monde et de faire des formations et d'avoir des impacts sur la vie des gens. Mais si on n'en parle pas ou pas assez, on passe à côté de quelque chose. Donc on y travaille.
Encore une fois, si t'as pas envie de répondre, tu me réponds pas, il y a aucun souci. Mais je voulais juste avoir ton point de vue, vu que t'as des investisseurs français et des investisseurs américains.
Ouais.
Puisqu'avec le dernier, en l'occurrence General Atlantic, quelle grosse différence tu vois dans ton rapport entre avec un investisseur français et un investisseur américain ?
Ah, c'est une question intéressante, j'ai aucun problème pour y répondre. L'investisseur américain a plus d'argent. C'est très con à dire, mais il a un 0 ou 2 de plus sur son compte en banque et déjà, ça fait vraiment la différence déjà. C'est pas que, alors, c'est loin d'être qu'une histoire d'argent, mais je voulais quand même le mentionner.
Bien sûr.
Souvent, l'investisseur américain a plus d'ambition. De mondial plus, mais pas toujours. Hein. Honnêtement, on a des très bons investisseurs français qui pensent global dès le départ, mais en moyenne, c'est ça. Et après, c'est une question de culture, la culture anglo-saxonne versus la culture latine. Je dirais que dans un comité d'administration français, on va être plutôt dans le rapport aux gens, de raconter des belles histoires, etc. Tandis que les anglo-saxons, culture germanique un peu, vont plutôt travailler sur des tableurs Excel et dire, OK, c'est quoi ton évolution, ton taux d'attrition, les employés qui quittent ton entreprise, mais combien, quel pourcentage, ça évolue comment par rapport à... Donc, ils sont très chiffres. Mmh. Et moins sur les, un peu moins sur l'émotionnel et l'affect. Ce qui est paradoxal parce que, pour le coup, ils sont très bons en marketing et à raconter des belles histoires, mais ils sont très méthodiques. Je trouve que c'est une bonne chose, très méthodique, parce qu'ils posent les bonnes questions. Donc, ils sont très bons à ça. Et c'est un truc qui manque en France. Et eux, à l'inverse, ce qui leur manque, c'est des fois prendre un petit peu de recul au-delà de ces chiffres-là et de se dire, qu'est-ce que ça fait concrètement ? Donc, il manque une dimension un peu, je dirais, latine, et inversement, vice-versa. Mais la combinaison des deux, et nous, on a un comité d'administration composé des deux, donne un résultat vraiment intéressant.
Comment tu vis aujourd'hui ? Enfin, quels sont tes rythmes ? Est-ce que tu te lèves supra-tôt ? Est-ce que tu fais beaucoup de sport ? Est-ce que tu... Comment tu fais pour t'entretenir ?
Jamais été quelqu'un du matin, je le suis toujours pas devenu, donc je viens pas à 6h du mat au bureau, clairement. Par contre, je bosse plutôt le soir, toujours sur mon rythme biologique, je l'accepte.
Okay.
Voilà, donc je m'arrange par rapport à ça. Du sport, j'en fais, mais j'aimerais en faire plus, comme beaucoup de gens, je crois. J'ai des pistes et je suis en train d'essayer de les activer. Je fais un peu de sport, je fais pas mal de courses, des semi-marathons, je fais un peu de salle de sport, etc., de temps en temps. Mais j'aimerais en faire plus, clair. J'essaie de plus aujourd'hui de déconnecter le week-end.
D'accord.
Je prends le week-end pour un moment de moi où je vais sortir dans la nature, profiter, lire ou même regarder des séries débiles en boucle sur Netflix. Chose que j'ai perdu de vue, que je savais plus faire.
Ouais.
Et maintenant, je dis, mon cerveau en a besoin parce que sinon je deviens fou en fait.
De déconnecter.
Se débrancher un peu, c'est un peu comme ça que je m'entretiens, je dirais, pour pas devenir fou. Je prends des temps, j'assume aussi que quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Voilà.
Je pose en général à mes invités toujours la même question en fin d'interview, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Est-ce que tu aurais récemment eu un coup de cœur ? Ça peut être un livre, ça peut être une série, ça peut être un film, ça peut être... une rencontre, peu importe.
Ouais.
Ou un voyage, ou je sais pas.
J'ai plein de coups de cœur.
Ah bah tant mieux.
Mais
Et après, un coup de gueule, tu vois, t'es pas obligé d'en avoir.
Ouais.
Y a plein de... enfin, y a
je suis pas du genre à avoir beaucoup de coups de gueule, mais vas-y, je vais peut-être chercher. J'ai pas préparé la question, c'est vrai que c'est une bonne question.
Tu peux me le dire plus tard, hein, y a pas de problème.
Ouais, un coup de cœur. Si c'est série, je recommande BoJack Horseman sur Netflix. Mm-hmm. C'est pas une série que j'aurais regardée si on me l'avait pitché, parce que c'est un homme à tête de cheval, en dessin animé.
Okay.
Mais c'est très profond au niveau du rapport à la vie, aux différentes générations, l'évolution dans la vie, les étapes un peu de dépression que tu passes par chaque nouvelle décennie. Je trouve ça vraiment très juste. Et d'ailleurs, il a gagné des prix. Il y a des épisodes qui sont à couper le souffle.
C'est vrai.
C'est un dessin animé avec un homme à tête de cheval. Enfin, c'est.
Okay.
Mais il faut peut-être insister, peut-être que le premier épisode, tu vas pas accrocher
D'accord.
complètement.
Okay.
Mais le truc est bon. Enfin, il a quelque chose de spécial. Donc, une des meilleures séries sur Netflix, BoJack Horseman.
Ok.
Sinon, j'ai plein de coups de cœur. Moi, j'adore la Thaïlande, je sais pas. Donc, j'ai un coup de cœur pour la Thaïlande et les Thaïlandais, l'environnement. C'est bien de sortir du pays quand on le peut, vraiment.
Bien sûr.
C'est une bouffée d'air frais et on comprend mieux son pays vu de l'extérieur. Mm-hmm. Il faut être en dehors du système pour mieux comprendre le système.
T'as bien raison.
Pour tous les gens qui le peuvent, financièrement, je le recommande. Bah, pas besoin d'aller très très loin, mais de prendre un peu de temps à l'extérieur, distance par rapport à son travail, ça aide énormément.
Bien sûr.
Coup de gueule maintenant. coup de gueule maintenant, je sais pas.
Mais t'es pas obligé d'en avoir. C'est tous mes invités n'ont pas forcément un coup de gueule. Hein. Mais peut-être quelque chose qui peut t'agacer ou tu vois que t'as vu récemment un truc qui t'agace.
Écoute, allez, je vais en lancer un parce que j'ai eu cette conversation là ce midi en déjeunant avec quelqu'un. Ouais. Peut-être la difficulté à aller au fond des problèmes politiquement parce que c'est très vite beaucoup de communication et d'actions un peu court terme. Mmh. Et donc là, c'est des périodes notamment de grève et on parle de la future des futures retraites, mais aussi de plein d'autres choses. Et quand je regarde ce qui transparaît au niveau des médias, alors je ne sais pas si c'est la faute des médias, des politiques ou en fait l'écosystème en lui-même, je trouve que le discours est assez pauvre. Voilà, on se tape dessus, on s'invective, on demande si on connaît le prix du ticket du métro, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment le fond du problème en fait.
Ouais. C'est violent.
Il y a une perte de d'intelligence, j'oserais le dire, dans le débat. On pourrait aller au fond du truc, parler du problème, mais en fait on est dans l'énervement mutuel et du coup on se tape dessus et ça mène à rien de bon. Donc voilà, je dirais l'écosystème, c'est pas la faute à quelqu'un en particulier. Je peux pas tout mettre sur les politiques eux-mêmes.
Bien sûr, c'est un ensemble.
Je pense les médias et l'habitude qu'on a pris aussi collectivement en France. Mais du coup, c'est dur de faire des choses, quoi. Mmh. C'est dur d'avancer, c'est dur de parler. Donc la confiance est cassée. Mmh. Et quand la confiance est cassée, c'est décevant, voire même moi, ça me déprime des fois,
bien sûr,
de voir les conversations et se dire en fait, on va rien sortir de bien de cette conversation. Mmh. J'ai pas très confiance dans la façon dont sont menées les conversations ou les négociations aujourd'hui. Que des bonnes choses vont en sortir. J'aimerais le croire, mais je trouve que la façon dont c'est mené, c'est trop animal. Je sais pas.
Ouais, je comprends. Voilà. Non, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Mathieu, pour clôturer l'interview ?
De faire plus de sport, tu vois. On en parle.
Voilà. Ok, bah, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Et puis, bonne chance et bon courage.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.